Honoré de Balzac, La femme abandonnée. En 1822, au commencement du printemps, les médecins de Paris envoyèrent en Basse-Normandie un jeune homme qui relevait alors d'une maladie inflammatoire causée par quelque excès d'études ou de vie peut-être. Sa convalescence exigeait un repos complet, une nourriture douce, un air froid et l'absence totale de sensations extrêmes. Les grasses campagnes du Bessin et l'existence pâle de la province parurent donc propices à son rétablissement. Il vint à Bayeux, jolie ville située à 2 lieues de la mer, chez une de ses cousines qu'il accueillit avec cette cordialité particulière aux gens habitués à vivre dans la retraite et pour lesquels l'arrivée d'un parent ou d'un ami devient un bonheur. À quelques usages près, toutes les petites villes se ressemblent. Or, après plusieurs soirées passées chez sa cousine, Madame de Sainte-Sévère, ou chez les personnes qui composaient sa compagnie, ce jeune Parisien, nommé M. le baron Gaston de Nueil, eut bientôt connu les gens que cette société exclusive regardait comme étant toute la ville. Gaston de Nueil vit en effet en eux le personnel immuable que les observateurs retrouvent dans les nombreuses capitales de ces anciens États qui formaient la France autrefois. C'était d'abord la famille dont la noblesse, inconnue à 50 lieues plus loin, passe dans le département pour incontestable et de la plus haute antiquité. Cette espèce de famille royale au petit pied effleure par ses alliances, sans que personne s'en doute, les Créqui, les Montmorency, touchant au Lusignan et s'accrochent aux Soubise. Le chef de cette race illustre est toujours un chasseur déterminé. Homme sans manière, il accable tout le monde de sa supériorité nominale, tolère le sous-préfet comme il souffre l'impôt, n'admet aucune des puissances nouvelles créées par le XIXe siècle et fait observer comme une monstruosité politique que le premier ministre n'est pas gentilhomme. Sa femme a le ton tranchant, parle haut, a eu des adorateurs, mais fait régulièrement ses Pâques. Elle élève mal ses filles et pense qu'elles seront toujours assez riches de leur nom. La femme et le mari n'ont d'ailleurs aucune idée du luxe actuel. Ils gardent les livrets de théâtre, tiennent aux anciennes formes pour l'argenterie, les meubles, les voitures, comme pour les mœurs et le langage. Ce vieux faste s'allie d'ailleurs assez bien avec l'économie des provinces. Enfin, c'est les gentilshommes d'autrefois, moins les lots et ventes, moins la meute et les habits galonnés. Tous pleins d'honneur entre eux, tous dévoués à des princes qu'ils ne voient qu'à distance. Cette maison historique incognito conserve l'originalité d'une antique tapisserie de haute lisse. Dans la famille végète infailliblement un oncle ou un frère, lieutenant général, cordon rouge, homme de cour, qui est allé en Hanovre avec le maréchal de Richelieu, et que vous retrouvez là comme le feuillet égaré d'un vieux pamphlet du temps de Louis XV. À cette famille fossile s'oppose une famille plus riche mais de noblesse moins ancienne. Le mari et la femme vont passer 2 mois d'hiver à Paris, ils en rapportent le ton fugitif et les passions éphémères. Madame est élégante mais un peu guindée et toujours en retard avec les modes. Cependant elle se moque de l'ignorance affectée par ses voisins. Son argenterie est moderne, elle a des grooms, des nègres, un valet de chambre. Son fils aîné à Tilbury ne fait rien, il a un majorat. Le cadet est auditeur au Conseil d'État. Le père, très au fait des intrigues du ministère, raconte des anecdotes sur Louis XVIII et sur Madame du Cayllat. Il place dans le 5%, évite la conversation sur les cidres, mais tombe encore parfois dans la manie de rectifier le chiffre des fortunes départementales. Il est membre du Conseil général, se fait habiller à Paris, et porte la croix de la Légion d'honneur. Enfin, ce gentilhomme a compris la Restauration et bat Monet à la Chambre, mais son royalisme est moins pur que celui de la famille avec laquelle il rivalise. Il reçoit la Gazette et les débats, l'autre famille ne lit que la Quotidienne. Monseigneur l'évêque, ancien vicaire général, flotte entre ces deux puissances qui lui rendent les honneurs dus à la religion, mais en lui faisant sentir parfois la morale que le bon La Fontaine a mise à la fin de l'âne chargé de reliques. Le bonhomme est roturier. Puis viennent les astres secondaires, les gentilshommes qui jouissent de 10 ou 12 000 livres de rente et qui ont été capitaines de vaisseau ou capitaines de cavalerie ou rien du tout. À cheval par les chemins, ils tiennent le milieu entre le curé portant les sacrements et le contrôleur des contributions en tournée. Presque tous ont été dans les pages ou dans les mousquetaires et achèvent paisiblement leur jour dans une faisance valoir, plus occupés d'une coupe de bois ou de leur cidre que de la monarchie. Cependant, ils parlent de la charte et des libéraux entre deux rubbers de whist ou pendant une partie de tric-trac, après avoir calculé les dots et arrangé des mariages en rapport avec les généalogies qu'ils savent par cœur. Leurs femmes font les fières et prennent les airs de la cour dans leurs cabriolets d'osier. Elles croient être parées quand elles sont affublées d'un châle et d'un bonnet. Elles achètent annuellement 2 chapeaux, mais après de mûres délibérations, et se les font apporter de Paris par occasion. Elles sont généralement vertueuses et bavardes. Autour de ces éléments principaux de la gent aristocratique se groupent 2 ou 3 vieilles filles de qualité qui ont résolu le problème de l'immobilisation de la créature humaine. Elles semblent être scellées dans les maisons où vous les voyez. Leurs figures, leurs toilettes font partie de l'immeuble, de la ville, de la province. Elles en sont la traduction, la mémoire, l'esprit. Tout ont quelque chose de raide et de monumental. Elles savent sourire ou hocher la tête à propos et de temps en temps disent des mots qui passent pour spirituels. Quelques riches bourgeois se sont glissés dans ce petit faubourg Saint-Germain grâce à leurs opinions aristocratiques ou à leur fortune. Mais en dépit de leurs 40 ans, là, chacun dit d'eux « Oh, ce petit un tel pense bien !» Et l'on en fait les députés. Généralement, ils sont protégés par les vieilles filles, mais l'on en cause. Puis enfin, 2 ou 3 ecclésiastiques sont reçus dans cette société d'élite pour leur étole ou parce qu'ils ont de l'esprit et que ces nobles personnes, s'ennuyant entre elles, introduisent l'élément bourgeois dans leur salon comme un boulanger met de la levure dans sa pâte. La somme d'intelligence amassée dans toutes ces têtes se compose d'une certaine quantité d'idées anciennes auxquelles se mêlent quelques pensées nouvelles qui se brassent en commun tous les soirs. Semblables à l'eau d'une petite anse, les phases qui représentent ces idées ont leur flux et reflux quotidien, leur remous perpétuel, exactement pareil. Qui en entend aujourd'hui le vide retentissement, l'entendra demain dans un an et dans toujours. Leurs arrêts immuablement portés sur les choses d'ici-bas forment une science traditionnelle à laquelle il n'est au pouvoir de personne d'ajouter une goutte d'esprit. La vie de ces routinières personnes gravite dans une sphère d'habitude aussi incommutable que le sont leurs opinions religieuses, politiques, morales et littéraires. Un étranger est-il admis dans ce cénacle? Chacun lui dira, non sans une sorte d'ironie, « Oh, vous ne trouvez pas ici le brillant de votre monde parisien ?» Et chacun condamnera l'existence de ses voisins, en cherchant à faire croire qu'il est une exception dans cette société qu'il a tenté, sans succès, de la rénover. Ah, mais si, par malheur, L'étranger fortifie par quelques remarques l'opinion que ces gens ont mutuellement d'eux-mêmes. Il passe aussitôt pour un homme méchant, sans foi ni loi, pour un Parisien corrompu, comme le sont en général tous les Parisiens. Quand Gaston de Nueil apparut dans ce petit monde où l'étiquette était parfaitement observée, où chaque chose de la vie s'harmoniait, où tout se trouvait mis à jour, où les valeurs nobiliaires et territoriales étaient cotées comme le sont les fonds de la bourse à la dernière page des journaux, il avait été pesé d'avance dans les balances infaillibles de l'opinion bayeuxaine. Déjà sa cousine, Madame de Sainte-Sévère, avait dit le chiffre de sa fortune, celui de ses espérances, exhibé son arbre généalogique, vanté ses connaissances, sa politesse et sa modestie. Il reçut l'accueil auquel il devait strictement prétendre, fut accepté comme un bon gentilhomme, sans façon parce qu'il n'avait que 23 ans. Mais certaines jeunes personnes et quelques mères lui firent les yeux doux. Il possédait 18 000 livres de rente dans la vallée d'Auge, et son père devait tôt ou tard lui laisser le château de Manerville avec toutes ses dépendances. Quant à son instruction, à son avenir politique, à sa valeur personnelle, à ses talents, il n'en fut seulement pas question. Ses terres étaient bonnes et les fermages bien assurés. D'excellentes plantations y avaient été faites. Les réparations et les impôts étaient à la charge des fermiers. Les pommiers avaient 38 ans. Enfin, son père était en marché pour acheter 200 arpents de bois continus à son parc qu'il voulait entourer de murs. Aucune espérance ministérielle, aucune célébrité humaine ne pouvait lutter contre de tels avantages. Soit malice, soit calcul, Madame de Saint-Sévère n'avait pas parlé du frère aîné de Gaston, et Gaston n'en dit pas un mot. Mais ce frère était poitrinaire et paraissait devoir être bientôt enseveli, pleuré et oublié. Gaston de Nueil commença par s'amuser de ces personnages. Il en dessina, pour ainsi dire, les figures sur son album dans la sapide vérité de leurs physionomies anguleuses, crochues, ridées, dans la plaisante originalité de leurs costumes et de leurs tics. Il se délecta des normanismes de leur idiome, du fruste de leurs idées et de leur caractère. Mais après avoir épousé pendant un moment cette existence semblable à celle des écureuils occupés à tourner leur cage, il sentit l'absence des oppositions dans une vie arrêtée d'avance, comme celle des religieux au fond des cloîtres, et tomba dans une crise qui n'est encore ni l'ennui ni le dégoût, mais qui en comporte presque tous les effets. Après les légères souffrances de cette transition, s'accomplit pour l'individu le phénomène de sa transplantation dans un terrain qui lui est contraire, où il doit s'atrophier et mener une vie rachitique. En effet, si rien ne le tire de ce monde, il en adopte insensiblement les usages et se fait à son vide qui le gagne et l'annule. Déjà, les poumons de Gaston s'habituaient à cette atmosphère. Prêt à reconnaître une sorte de bonheur végétal dans ses journées passées sans soins et sans idées, il commençait à perdre le souvenir de ce mouvement de sève, de cette fructification constante des esprits qu'il avait si ardemment épousé dans la sphère parisienne et allait se pétrifier parmi ces pétrifications. Il allait y demeurer pour toujours, comme les compagnons d'Ulysse, contents de sa grasse enveloppe. Un soir, Gaston de Nueil se trouvait assis entre une vieille dame et l'un des vicaires généraux du diocèse, dans un salon à boiseries peintes en gris, carrelé en grands carreaux de terre blanc, décoré de quelques portraits de famille, garni de 4 tables de jeu, autour desquelles 16 personnes habillaient en jouant au whist. Là, ne pensant à rien, mais digérant un de ces dîners exquis, l'avenir de la journée en province, il se surprit à justifier les usages du pays. Il concevait pourquoi ces gens-là continuaient à se servir des cartes de la veille, à les battre sur des tapis usés, et comment ils arrivaient à ne plus s'habiller ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Ils devinaient je ne sais quelle philosophie dans le mouvement uniforme de cette vie circulaire, dans le calme de ses habitudes logiques et dans l'ignorance des choses élégantes. Enfin, ils comprenaient presque l'inutilité du luxe. La ville de Paris, avec ses passions, ses orages et ses plaisirs, n'était déjà plus dans son esprit que comme un souvenir d'enfance. Il admirait de bonne foi les mains rouges, l'air modeste et craintif d'une jeune personne dont, à la première vue, la figure lui avait paru niaise, les manières sans grâce, l'ensemble repoussant et la mine souverainement ridicule. C'en était fait de lui. Venu de la province à Paris, il allait retomber de l'existence inflammatoire de Paris dans la froide vie de province, sans une phrase qui frappa son oreille et lui apporta soudain une émotion semblable à celle que lui aurait causé quelque motif original parmi les accompagnements d'un opéra ennuyeux. « N'êtes-vous pas allé voir hier Madame de Beauséant ?» dit une vieille dame au chef de la maison princière du pays. « Oh, j'y suis allé ce matin, » répondit-il, « je l'ai trouvé bien triste et si souffrante que je n'ai pas pu la décider à venir dîner demain avec nous. »«
Avec Madame de Champignelle ?» s'écria la douairière en manifestant une sorte de surprise.
« Avec ma femme, oui, dit tranquillement le gentilhomme. Madame de Beauséant n'est-elle pas de la maison de Bourgogne ? Par les femmes, il est vrai, mais enfin, ce nom-là blanchit tout. Ma femme aime beaucoup la vicomtesse, et la pauvre dame est depuis si longtemps seule que... » Et en disant ces derniers mots, le marquis de Champignelles regarda d'un air calme et froid les personnes qui l'écoutaient en l'examinant. Mais il fut presque impossible de deviner s'il faisait une concession au malheur ou à la noblesse de Madame de Beauséant, s'il était flatté de la recevoir ou s'il voulait forcer par orgueil les gentilshommes du pays et leurs femmes à la voir. Toutes les dames parurent se consulter en se jetant le même coup d'œil, et alors, le silence le plus profond ayant tout à coup régné dans le salon, leur attitude fut prise comme un indice d'improbation. Cette Madame de Beauséant est-elle par hasard celle dont l'aventure avec M. d'Aljuda Pinto a fait tant de bruit ? Demanda Gaston à la personne près de laquelle il était.
Oui, parfaitement la même, lui répondit-on. Elle est venue habiter Courcelles après le mariage du marquis d'Ajuda. Personne ici ne la reçoit. Elle a d'ailleurs beaucoup trop d'esprit pour ne pas avoir senti la fausseté de sa position. Aussi l'a-t-elle cherché à voir personne. Monsieur de Champignelles et quelques hommes se sont présentés chez elle, mais elle n'a reçu que Monsieur de Champignelles, à cause peut-être de leur parenté. Ils sont alliés par les Beauséants. Le marquis de Beauséant, le père, a épousé une Champignelle de la branche aînée. Quoique la vicomtesse de Beauséant passe pour descendre de la maison de Bourgogne, vous comprenez que nous ne pouvions pas admettre ici une femme séparée de son mari. C'est de vieilles idées auxquelles nous avons encore la bêtise de tenir. La vicomtesse a eu d'autant plus de tort dans ses escapades que M. de Beauséant est un galant homme, un homme de cour. Il aurait très bien entendu raison, mais sa femme est une tête folle.
Monsieur de Nueil, tout en entendant la voix de son interlocutrice, ne l'écoutait plus. Il était absorbé par mille fantaisies. Existe-t-il d'autres mots pour exprimer les attraits d'une aventure au moment où elle sourit à l'imagination, au moment où l'âme conçoit de vagues espérances, pressant d'inexplicables félicités, des craintes des événements, sans que rien encore n'alimente ni ne fixe les caprices de ce mirage? L'esprit voltige alors, enfante des projets impossibles,
et donne en germe les bonheurs d'une passion. Mais peut-être le germe de la passion la contient-elle entièrement, comme une graine contient une belle fleur avec ses parfums et ses riches couleurs. Monsieur de Nueil ignorait que Madame de Beauséant se fût réfugiée en Normandie après un éclat que la plupart des femmes envient et condamnent, surtout lorsque les séductions de la jeunesse et de la beauté justifient presque la faute qu'il a causée. Il existe un prestige inconcevable dans toute espèce de célébrité, à quelque titre qu'elle soit due. Il semble que, pour les femmes, comme jadis pour les familles, la gloire d'un crime en efface la honte. De même que telle maison s'enorgueillit de ses têtes tranchées, une jeune femme devient plus attrayante par la fatale renommée d'un amour heureux ou d'une affreuse trahison. Plus elle est à plaindre, plus elle excite de sympathie. Nous ne sommes impitoyables que pour les choses, pour les sentiments et les aventures vulgaires. En attirant les regards, nous paraissons grands. Ne faut-il pas, en effet, s'élever au-dessus des autres pour en être vu? Or, la foule éprouve involontairement un sentiment de respect pour tout ce qui s'est grandi, sans trop demander compte des moyens. En ce moment, Gaston de Nueil se sentait poussé vers Madame de Beauséant par la secrète influence de ses raisons, ou peut-être par la curiosité, par le besoin de mettre un intérêt dans sa vie actuelle, enfin, par cette foule de motifs impossibles à dire et que le mot de fatalité sert souvent à exprimer. La vicomtesse de Beauséant avait surgi devant lui tout à coup, accompagnée d'une foule d'images gracieuses. Elle était un monde nouveau. Près d'elle, sans doute, il y avait à craindre, à espérer, à combattre, à vaincre. Elle devait contraster avec les personnes que Gaston voyait dans ce salon mesquin. Enfin, c'était une femme, et il n'avait point encore rencontré de femme dans ce monde froid, où les calculs remplaçaient les sentiments, où la politesse n'était plus que des devoirs, et où les idées les plus simples avaient quelque chose de trop blessant pour être acceptées ou émises. Madame de Beauséant réveillait en son âme le souvenir de ses rêves de jeune homme et ses plus vivaces passions un moment endormies. Gaston de Nueil devint distrait pendant le reste de la soirée. Il pensait aux moyens de s'introduire chez Madame de Beauséant, et certes, il n'en existait guère. Elle passait pour être éminemment spirituelle, mais si les femmes d'esprit peuvent se laisser séduire par les choses originales ou fines, elles sont exigeantes, savent tout deviner. Auprès d'elles, il y a donc autant de chances pour se perdre que pour réussir dans la difficile entreprise de plaire. Puis la vicomtesse devait joindre à l'orgueil de sa situation la dignité que son nom lui commandait. La solitude profonde dans laquelle elle vivait semblait être la moindre des barrières élevées entre elle et le monde. Il était donc presque impossible à un inconnu, de quelque bonne famille qu'il fût, de se faire admettre chez elle. Cependant, le lendemain matin, M. de Nueil dirigea sa promenade vers le pavillon de Courcelles et fit plusieurs fois le tour de l'enclos qui en dépendait. Dupé par les illusions auxquelles il est si naturel de croire à son âge, il regardait à travers les brèches ou par-dessus les murs, restait en contemplation devant les persiennes fermées ou examinait celles qui étaient ouvertes. Il espérait un hasard romanesque. Il en combinait les effets sans s'apercevoir de leur impossibilité pour s'introduire auprès de l'inconnu. Il se promena pendant plusieurs matinées, fort infructueusement, mais à chaque promenade, cette femme placée en dehors du monde, victime de l'amour, ensevelie dans la solitude, grandissait dans sa pensée et se logeait dans son âme. Aussi le cœur de Gaston battait-il d'espérance et de joie si par hasard, en longeant les murs de Courcelles, il venait à entendre le pas pesant de quelque jardinier. Il pensait bien à écrire à Madame de Beauséant, mais que dire à une femme que l'on n'a pas vue et qui ne vous connaît pas? D'ailleurs, Gaston se défia de lui-même. Puis, semblable aux jeunes gens encore pleins d'illusions, il craignait plus que la mort les terribles dédains du silence et frissonnait en songeant à toutes les chances que pouvait avoir sa première prose amoureuse d'être jetée au feu. Il était en proie à mille idées contraires qui se combattaient. Mais enfin, à force d'enfanter des chimères, de composer des romans et de se creuser la cervelle, il trouva l'un de ces heureux stratagèmes qui finissent par se rencontrer dans le grand nombre de ceux que l'on rêve et qui révèlent à la femme la plus innocente l'étendue de la passion avec laquelle un homme s'est occupé d'elle. Souvent, les bizarreries sociales créent autant d'obstacles réels entre une femme et son amant que les poètes orientaux en ont mis dans les délicieuses fictions de leurs contes, et leurs images les plus fantastiques sont rarement exagérées. Aussi, dans la nature comme dans le monde des fées, la femme doit-elle toujours appartenir à celui qui s'est arrivé à elle et l'a délivrée de la situation où elle languit. Le plus pauvre des calenders, tombant amoureux de la fille d'un calife, n'en était pas certes séparé par une distance plus grande que celle qui se trouvait entre Gaston et Madame de Beauséant. La vicomtesse vivait dans une ignorance absolue des circonvallations tracées autour d'elle par M. de Nueil, dont l'amour s'accroissait de toute la grandeur des obstacles à franchir et qui donnait à sa maîtresse improvisée les attraits que possède toute chose lointaine. Un jour, se fiant à son inspiration, il espéra tout de l'amour qui devait jaillir de ses yeux. Croyant la parole plus éloquente que ne l'est la lettre la plus passionnée, et spéculant aussi sur la curiosité naturelle à la femme, il alla chez M. le Champignel en se proposant de l'employer à la réussite de son entreprise. Il dit au gentilhomme qu'il avait à s'acquitter d'une commission importante et délicate auprès de Madame de Beauséant, mais, ne sachant point si elle lisait les lettres d'une écriture inconnue ou si elle accorderait sa confiance à un étranger, il le priait de demander à la vicomtesse, lors de sa première visite, si elle daignerait le recevoir. Tout en invitant le marquis à garder le secret en cas de refus, il l'engagea fort spirituellement à ne point taire à Madame de Beauséant les raisons qui pouvaient le faire admettre chez elle. N'était-il pas homme d'honneur, loyal et incapable de se prêter à une chose de mauvais goût ou même malséante? Le hautain gentilhomme, dont les petites vanités avaient été flattées, fut complètement dupé par cette diplomatie de l'amour qui prête à un jeune homme l'aplomb et la haute dissimulation d'un vieil ambassadeur. Il essaya bien de pénétrer les secrets de Gaston, mais celui-ci, fort embarrassé de les lui dire, opposa des phrases normandes aux adroites interrogations de M. de Champignel qui, en chevalier français, le complimenta sur sa discrétion. Aussitôt, le marquis courut à Courcelles avec cet empressement que les gens d'un certain âge mettent à rendre service aux jolies femmes. Dans la situation où se trouvait la vicomtesse de Beauséant, un message de cette espèce était de nature à l'intriguer. Aussi, quoiqu'elle ne vit, en consultant ses souvenirs, aucune raison qui pût amener chez elle M. de Nueil, n'aperçut-elle aucun inconvénient à le recevoir, après toutefois s'être prudemment enquise de sa position dans le monde. Elle avait cependant commencé par refuser, puis elle avait discuté ce point de convenance avec M. de Champignel, en l'interrogeant pour tâcher de deviner s'il savait le motif de cette visite. Puis elle était revenue sur son refus. La discussion et la discrétion forcée du marquis avaient irrité sa curiosité. Monsieur de Champignelles ne voulait point paraître ridicule, et il prétendait, en homme instruit mais discret, que la vicomtesse devait parfaitement bien connaître l'objet de cette visite, quoiqu'elle le cherchât de bien bonne foi sans le trouver. Madame de Beauséant créait des liaisons entre Gaston et des gens qu'il ne connaissait pas, se perdait dans d'absurdes suppositions, et se demandait à elle-même si elle avait jamais vu M. de Nueil. La lettre d'amour la plus vraie ou la plus habile n'eût certes pas produit autant d'effet que cette espèce d'énigme sans mots de laquelle Madame de Beauséant fut occupée à plusieurs reprises. Quand Gaston apprit qu'il pouvait voir la vicomtesse, il fut tout à la fois dans le ravissement d'obtenir si promptement un bonheur ardemment souhaité et singulièrement embarrassé de donner un dénouement à sa ruse. « Bah, la voir, » répétait-il en s'habillant, « la voir, c'est tout. » Puis il espérait, en franchissant la porte de Courcelles, rencontrer un expédient pour dénouer le nœud gordien qu'il avait serré lui-même. Gaston était du nombre de ceux qui, croyant à la toute-puissance de la nécessité, vont toujours. Et au dernier moment, arrivé en face du danger, il s'en inspire et trouve des forces pour le vaincre. Il mit un soin particulier à sa toilette. Il s'imaginait, comme les jeunes gens, que d'une boucle bien ou mal placée dépendait son succès, ignorant qu'au jeune âge, tout est charme et attrait. D'ailleurs, les femmes de choix qui ressemblent à Madame de Beauséant ne se laissent séduire que par les grâces de l'esprit et par la supériorité du caractère. Un grand caractère flatte leur vanité, leur promet une grande passion et paraît devoir admettre les exigences de leur cœur. L'esprit les amuse, répond aux finesses de leur nature, et elles se croient comprises. Ah, que veulent toutes les femmes, si ce n'est d'être amusées, comprises ou adorées? Mais il faut avoir bien réfléchi sur les choses de la vie pour deviner la haute coquetterie que comporte la négligence du costume et la réserve de l'esprit dans une première entrevue. Quand nous devenons assez rusés pour être d'habiles politiques, nous sommes trop vieux pour profiter de notre expérience. Tandis que Gaston se défiait assez de son esprit pour emprunter des séductions à son vêtement, Madame de Beauséant elle-même mettait instinctivement de la recherche dans sa toilette et se disait, en arrangeant sa coiffure, « Oh, je ne veux cependant pas être à faire peur. » Monsieur de Nueil avait dans l'esprit, dans sa personne et dans les manières, cette tournure naïvement originale qui donne une sorte de saveur aux gestes et aux idées ordinaires, permet de tout dire et fait tout passer. Il était instruit, pénétrant, d'une physionomie heureuse et mobile, comme son âme impressible. Il y avait de la passion, de la tendresse dans ses yeux vifs, et son cœur essentiellement bon ne les démentait pas. La résolution qu'il prit en entrant à Courcelles fut donc en harmonie avec la nature de son caractère franc et de son imagination ardente. Malgré l'intrépidité de l'amour, il ne put cependant se défendre d'une violente palpitation quand, après avoir traversé une grande cour dessinée en jardin anglais, il arriva dans une salle où un valet de chambre lui en demandait son nom, disparut et revint pour l'introduire. « Monsieur le baron de Nueil !» Gaston entra lentement, mais d'assez bonne grâce, chose plus difficile encore, dans un salon où il n'y a qu'une femme, que dans celui où il y en a 20. À l'angle de la cheminée, où malgré la saison brillait un grand foyer, et sur laquelle se trouvaient deux candélabres allumés jetant de molles lumières, il aperçut une jeune femme assise dans cette moderne bergère à dossier très élevé, dont le siège bas lui permettait de donner à sa tête des poses variées, pleines de grâce et d'élégance, de l'incliner, de la pencher, de la redresser languissamment, comme si c'était un fardeau pesant, puis de plier ses pieds, de les montrer ou de les rentrer sous les longs plis d'une robe noire. La vicomtesse voulut placer sur une petite table ronde le livre qu'elle lisait, mais, ayant en même temps tourné la tête vers M. de Nueil, le livre mal posé tomba dans l'intervalle qui séparait la table de la bergère. Sans paraître surprise de cet accident, elle se rehaussa et s'inclina pour répondre au salut du jeune homme, mais d'une manière imperceptible et presque sans se lever de son siège où son corps resta plongé. Elle se courba pour s'avancer, remua vivement le feu, puis elle se baissa, ramassa un gant qu'elle mit avec négligence à sa main gauche en cherchant l'autre par un regard promptement réprimé, car de sa main droite, main blanche, presque transparente, sans bague, fluette, à doigts effilés, et dont les ongles roses formaient un ovale parfait, elle montra une chaise comme pour dire à Gaston de s'asseoir. Quand son hôte inconnu fut assis, elle tourna la tête vers lui par un mouvement interrogeant et coquet dont la finesse ne saurait se peindre. Il appartenait à ces intentions bienveillantes, à ces gestes gracieux, quoique précis, que donnent l'éducation première et l'habitude constante des choses de bon goût. Ces mouvements multiples, liés, se succédèrent rapidement en un instant, sans saccade ni brusquerie, et charmèrent Gaston par ce mélange de soin et d'abandon qu'une jolie femme ajoute aux manières aristocratiques de la haute compagnie. Madame de Beauséant contrastait trop vivement avec les automates parmi lesquels il vivait depuis 2 mois d'exil au fond de la Normandie pour ne pas lui personnifier la poésie de ses rêves. Aussi ne pouvait-il en comparer les perfections à aucune de celle qu'il avait jadis admirée. Devant cette femme et dans ce salon meublé comme l'est un salon du faubourg Saint-Germain, plein de ces riens si riches qui traînent sur les tables, en apercevant des livres et des fleurs, il se retrouva dans Paris. Il foulait un vrai tapis de Paris, revoyait le type distingué et les formes frêles de la parisienne, sa grâce exquise et sa négligence des effets cherchés qui nuisent tant aux femmes de province. Madame la vicomtesse de Beauséant était blonde, blanche comme une blonde, et avait les yeux bruns. Elle présentait noblement son front, un front d'ange déchu, qui s'enorgueillit de sa faute et ne veut point de pardon. Ses cheveux abondants et tressés en hauteur au-dessus de 2 bandeaux, qui décrivaient sur son front de larges courbes, ajoutaient encore à la majesté de sa tête. L'imagination retrouvait dans les spirales de cette chevelure dorée la couronne ducale de Bourgogne, et dans les yeux brillants de cette grande dame, tout le courage de sa maison, le courage d'une femme forte seulement pour repousser le mépris ou l'audace, mais pleine de tendresse pour les sentiments doux. Les contours de sa petite tête admirablement posée sur un long col blanc, les traits de sa figure fine, ses lèvres déliées et sa physionomie mobile gardaient une expression de prudence exquise, une teinte d'ironie affectée qui ressemblait à de la ruse et à de l'impertinence. Il était difficile de ne pas lui pardonner ses 2 péchés féminins en pensant à ses malheurs, à la passion qui avait failli lui coûter la vie et qu'attestaient soit les rides qui, par le moindre mouvement, sillonnaient son front, soit la douloureuse éloquence de ses beaux yeux, souvent levés vers le ciel. N'était-ce pas un spectacle imposant et encore agrandi par la pensée de voir dans un immense salon silencieux cette famille séparée du monde entier et qui, depuis 3 ans, demeurait au fond d'une petite vallée, loin de la ville, seule avec les souvenirs d'une jeunesse brillante, heureuse, passionnée, jadis remplie par des fêtes, par de constants hommages, mais maintenant livrée aux horreurs du néant. Le sourire de cette femme annonçait une haute conscience de sa valeur. N'étant ni mère ni épouse, repoussée par le monde, privée du seul cœur qui put faire battre le sien sans honte, ne tirant d'aucun sentiment les secours nécessaires à son âme chancelante, elle devait prendre sa force sur elle-même, vivre de sa propre vie et n'avoir d'autre espérance que celle de la femme abandonnée, attendre la mort, en hâter la lenteur, malgré les beaux jours qui lui restaient encore. Se sentir destiné au bonheur et périr sans le recevoir, sans le donner, une femme, quelle douleur! Monsieur de Nueil fit ses réflexions avec la rapidité de l'éclair et se trouva bien honteux de son personnage en présence de la plus grande poésie dont puisse s'envelopper une femme. Séduit par le triple éclat de la beauté, du malheur et de la noblesse, il demeura presque béant, songeur, admirant la vicomtesse, mais ne trouvant rien à lui dire. Madame de Beauséant, à qui cette surprise ne déplut sans doute point, lui tendit la main par un geste doux mais impératif, puis rappela un sourire sur ses lèvres pâlies, comme pour obéir encore aux grâces de son sexe, elle lui dit « Monsieur de Champignol m'a prévenu, monsieur, du message dont vous êtes si complaisamment chargé pour lui. Serait-ce de la part de... » En entendant cette terrible phrase, Gaston comprit encore mieux le ridicule de sa situation, le mauvais goût, la déloyauté de son procédé envers une femme et si noble et si malheureuse. Il rougit. Son regard, empreint de mille pensées, se troubla. Mais tout à coup, avec cette force que de jeunes cœurs savent puiser dans le sentiment de leur faute, il se rassura. Puis, interrompant Madame de Beauséant, non sans faire un geste plein de soumission, il lui répondit d'une voix émue « Madame, je ne mérite pas le bonheur de vous voir. Je vous ai indignement trompé. Le sentiment auquel j'ai obéi, si grand qu'il puisse être, ne saurait faire excuser le misérable subterfuge qui m'a servi pour arriver jusqu'à vous. Mais, madame, si vous aviez la bonté de me permettre de vous dire... » La vicomtesse lança sur monsieur de Nueil un coup d'œil plein de hauteur et de mépris, leva la main pour saisir le cordon de sa sonnette, sonna. Le valet de chambre vint. Elle lui dit, en regardant le jeune homme avec dignité, « Jacques, éclairez, monsieur. » Elle se leva fière, salua Gaston, et se baissa pour ramasser le livre tombé. Ses mouvements furent aussi secs, aussi froids, que ceux par lesquels elle l'accueillit avaient été mollement élégants et gracieux. Monsieur de Nueil s'était levé, mais il restait debout. Madame de Beauséant lui jeta de nouveau un regard, comme pour lui dire « Bien, vous ne sortez pas ». Ce regard fut empreint d'une moquerie si perçante que Gaston devint pâle comme un homme près de défaillir. Quelques larmes roulèrent dans ses yeux, mais il les retint, les sécha dans les feux de la honte et du désespoir, regarda Madame de Beauséant avec une sorte d'orgueil qui exprimait tout ensemble et de la résignation et une certaine conscience de sa valeur. La vicomtesse avait le droit de le punir, mais le devait-elle ? Puis il sortit. En traversant l'antichambre, la perspicacité de son esprit et son intelligence aiguisée par la passion lui firent comprendre tout le danger de sa situation. « Si je quitte cette maison, se dit-il, je n'y pourrai jamais rentrer. je serai toujours un sot pour la vicomtesse. Il est impossible à une femme, et elle est femme, de ne pas deviner l'amour qu'elle inspire. Elle ressent peut-être un regret vague et involontaire de m'avoir si brusquement congédié, mais elle ne doit pas, elle ne peut pas révoquer son arrêt. C'est à moi de la comprendre. À cette réflexion, Gaston s'arrête sur le perron, laisse échapper une exclamation, se retourne vivement et dit « Oh, j'ai oublié quelque chose !» Et il revint vers le salon, suivi du valet de chambre, qui, plein de respect pour un baron, et par les droits sacrés de la propriété, fut complètement abusé par le ton naïf avec lequel cette phrase fut dite. Gaston entra doucement, sans être annoncé. Quand la vicomtesse, pensant peut-être que l'intrus était son valet de chambre, leva la tête, elle trouva devant elle M. de Nueil. « Jacques m'a éclairé, » dit-il en souriant. Son sourire empreint d'une grâce à demi triste ôtait à ce mot tout ce qu'il avait de plaisant, et l'accent avec lequel il était prononcé devait aller à l'âme. Madame de Beauséant fut désarmée. « Eh bien, asseyez-vous, » dit-elle. Gaston s'empara de la chaise par un mouvement avide. Ses yeux, animés par la félicité, jetèrent un éclat si vif que la vicomtesse ne put soutenir. Ce jeune regard baissa les yeux sur son livre et savoura le plaisir toujours nouveau d'être pour un homme le principe de son bonheur, sentiment impérissable chez la femme. Puis Madame de Beauséant avait été devinée. La femme est si reconnaissante de rencontrer un homme au fait des caprices si logiques de son cœur, qui comprennent les allures en apparence contradictoires de son esprit, les fugitives pudeurs de ses sensations, tantôt timides, tantôt hardies, étonnant mélange de coquetterie et de naïveté. « Madame, s'écria doucement Gaston, vous connaissez ma faute, mais vous ignorez mes crimes. » Car si vous saviez avec quel bonheur j'ai... Ah, prenez garde, dit-elle, en levant un de ses doigts d'un air mystérieux à la hauteur de son nez qu'elle effleura. Puis de l'autre main, elle fit un geste pour prendre le cordon de la sonnette. Ce joli mouvement, cette gracieuse menace, provoquèrent sans doute une triste pensée, un souvenir de sa vie heureuse, du temps où elle pouvait être tout charme et toute gentillesse, où le bonheur justifiait les caprices de son esprit, comme il donnait un attrait de plus au moindre mouvement de sa personne. Elle amassa les rides de son front entre ses deux sourcils. Son visage, si doucement éclairé par les bougies, prit une sombre expression. Elle regarda M. de Nueil avec une gravité dénuée de froideur et lui dit en femme profondément pénétrée par le sens de ses paroles « Tout ceci est bien ridicule. Un temps a été, monsieur, où j'avais le droit d'être follement gai, où j'aurais pu rire avec vous et vous recevoir sans crainte, mais aujourd'hui ma vie est bien changée. Je ne suis plus maîtresse de mes actions et suis forcée d'y réfléchir. À quel sentiment dois-je votre visite? Est-ce curiosité? Je paie alors bien cher un fragile instant de bonheur. Aimeriez-vous déjà passionnément une femme infailliblement calomniée que vous n'avez jamais vue? Vos sentiments seraient donc fondés sur la mésestime, sur une faute à laquelle le hasard a donné de la célébrité. » Elle jeta son livre sur la table avec dépit. « Mais quoi ? » reprit-elle, après avoir lancé un regard terrible sur Gaston. « Parce que j'ai été faible ? Le monde veut que je le sois toujours ? Mais cela est affreux, dégradant. Venez-vous chez moi pour me plaindre ? Vous êtes bien jeune pour sympathiser avec des peines de cœur. » « Sachez-le bien, monsieur, je préfère le mépris à la pitié. Je ne veux subir la compassion de personne. »
Il y eut un moment de silence. « Eh bien, vous voyez, monsieur, » reprit-elle en levant la tête vers lui d'un air triste et doux, « quel que soit le sentiment qui vous ait porté à vous jeter étourdiment dans ma retraite, vous me blessez. Vous êtes trop jeune pour être tout à fait dénué de bonté. Vous sentirez donc l'inconvenance de votre démarche. Je vous la pardonne et vous en parle maintenant sans amertume. Vous ne reviendrez plus ici, n'est-ce pas ? Je vous prie, quand je pourrais ordonner, si vous me faisiez une nouvelle visite, il ne serait ni en votre pouvoir, ni au mien d'empêcher toute la ville de croire que vous devenez mon amant, et vous ajouteriez à mes chagrins un chagrin bien grand. Ce n'est pas votre volonté, je pense. » Elle se tut en le regardant avec une dignité vraie qui le rendit confus. « J'ai eu tort, madame, » répondit-il d'un ton pénétré. « Mais l'ardeur, l'irréflexion, un vif besoin de bonheur sont à mon âge des qualités et des défauts. « Maintenant, » reprit-il, « je comprends que je n'aurais pas dû chercher à vous voir. Cependant, mon désir était bien naturel. » Et il tâcha de raconter avec plus de sentiment que d'esprit les souffrances auxquelles l'avait condamné son exil nécessaire. Il peignit l'état d'un jeune homme dont les feux brûlaient sans aliment, en faisant penser qu'il était digne d'être aimé tendrement et néanmoins n'avait jamais connu les délices d'un amour inspiré par une femme jeune, belle, pleine de goût et de délicatesse. Il expliqua son manque de convenance sans vouloir le justifier. Il flatta Madame de Beauséant en lui prouvant qu'elle réalisait pour lui le type de la maîtresse incessamment mais vainement appelée par la plupart des jeunes gens. Puis, en parlant de ses promenades matinales autour de Courcelles et des idées vagabondes qui le saisissaient à l'aspect du pavillon où il s'était enfin introduit, il excita cette indéfinissable indulgence que la femme trouve dans son cœur pour les folies qu'elle inspire. Il fit entendre une voix passionnée dans cette froide solitude où il apportait les chaudes inspirations du jeune âge et les charmes d'esprit qui décèlent une éducation soignée. Madame de Beauséant était privée depuis trop longtemps des émotions que donnent les sentiments vrais, finement exprimés, pour ne pas en sentir vivement les délices. Elle ne put s'empêcher de regarder la figure expressive de M. de Nueil et d'admirer en lui cette belle confiance de l'âme qui n'a encore été ni déchirée par les cruels enseignements de la vie du monde, ni dévorée par les perpétuels calculs. Gaston était le jeune homme dans sa fleur et se produisait en homme de caractère qui méconnaît encore ses hautes destinées. Ainsi, tous deux faisaient à l'un, à l'insu de l'autre, les réflexions les plus dangereuses pour leur repos, et tâchaient de se les cacher. Monsieur de Nueil reconnaissait dans la vicomtesse une de ces femmes si rares, toujours victimes de leur propre perfection et de leur inextinguible tendresse, dont la beauté gracieuse et le moindre charme quand elles ont une fois permis l'accès de leur âme, où les sentiments sont infinis, où tout est bon, où l'instinct du beau s'unit aux expressions les plus variées de l'amour pour purifier les voluptés et les rendre presque saintes. Admirable secret de la femme, présent exquis, si rarement accordé par la nature. De son côté, la vicomtesse, en écoutant l'accent vrai avec lequel Gaston lui parlait des malheurs de sa jeunesse, devinait les souffrances imposées par la timidité aux grands enfants de 25 ans, lorsque l'étude les a garantis de la corruption et du contact des gens du monde, dont l'expérience raisonneuse corrode les belles qualités du jeune âge. Elle trouvait en lui le rêve de toutes les femmes, un homme chez lequel n'existait encore ni cet égoïsme de famille ou de fortune, ni ce sentiment personnel
qui finissent par tuer dans leur premier élan le dévouement, l'honneur, l'abnégation, l'estime de soi-même, fleurs d'âme sitôt fanées, qui d'abord enrichissent la vie d'émotions délicates, quoique fortes, et ravivent en l'homme la probité du cœur. Une fois lancés dans les vastes espaces du sentiment, ils arrivèrent très loin en théorie, sondèrent l'un et l'autre la profondeur de leurs âmes, s'informèrent de la vérité de leurs expressions. Cet examen involontaire chez Gaston était prémédité chez Madame de Beauséant. Usant de sa finesse naturelle ou acquise, elle exprimait, sans se nuire à elle-même, des opinions contraires aux siennes pour connaître celles de M. de Nueil. Elle fut si spirituelle, si gracieuse, elle fut si bien elle-même avec un jeune homme qui ne réveillait point sa défiance, en croyant ne plus le revoir, que Gaston s'écria naïvement à un mot délicieux dit par elle-même, « Madame, mais comment un homme a-t-il pu vous abandonner ?»